La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Notre société aujourd'hui se montre assez discriminante lorsqu'il s'agit de l'âge. Et ainsi s'est développé le concept du jeunisme, dont on entend parler très souvent, et qui tend à donner quand même une place plus importante aux jeunes. Et bien sûr, ceci aux dépens des seniors, qui sont considérés d'un point de vue médical comme fragiles et vulnérables, et du point de vue social étant la source de conséquences économiques considérées comme péjoratives. Et le tout instille l'idée que la personne âgée est une charge, au point même que le film japonais Plan 75, que vous avez peut-être vu, qui est sorti en 2022, qui, en étant une fiction bien sûr, traite quand même de l'élimination programmée des personnes âgées. Ce n'est quand même pas rien. Et pourtant, le vieillissement ne suscite pas obligatoirement fragilité et vulnérabilité, sinon inutilité. Donc c'est la raison pour laquelle je remercie beaucoup le professeur Patrick Mukundia et le docteur Imad Sfer d'avoir bien voulu se déplacer aujourd'hui pour évoquer cette question majeure. Alors, bien sûr, je les remercie chaleureusement, mais je leur demanderai peut-être de se présenter davantage. Alors, peut-être le professeur Mukundia, s'il veut bien se présenter.
Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord le professeur Didier de m'avoir invité à intervenir dans cette émission la fragilité, la vulnérabilité, le vieillissement. Je vais me présenter, je m'appelle Patrick Mukundia, je suis professeur de gériatrie à l'UFR des sciences de santé de Dijon à l'Université Bourgogne-Europe et au CHU Dijon-Bourgogne. Et donc je suis en charge d'un pôle qui s'appelle le pôle personnes âgées où il y a toute la filière gériatrique et les soins palliatifs. Je suis donc particulièrement sensible et sensibilisé à ces notions de fragilité, vulnérabilité, dans le cadre du vieillissement notamment. Et donc, c'est donc avec plaisir que j'interviendrai dans cet échange.
Merci beaucoup, Patrick. Alors, on peut se tutoyer puisqu'on se connaît depuis longtemps. Donc, je pense que nos auditrices et auditeurs n'en seront pas choqués. Et quant à toi, Imad, alors, si tu veux bien te présenter.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Imad Sfer, je suis gériatre de formation et directeur médical et innovation en santé du groupe Vive 3 Bourgogne. Et je suis également président du réseau RESEDA, réseau des maladies neuroévolutives de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis ravi de co-animer cette émission avec professeur Mukundia et avec toi, Jean-Pierre.
Merci beaucoup. Alors, la vulnérabilité, c'est un terme qu'on dit polysémique, c'est-à-dire un terme qui veut dire plein de choses à la fois et qui est de temps en temps difficile à percevoir. En effet, à 50 ans ou à 40 ans, on peut être vulnérable, et à 80 ans, on peut être moins vulnérable qu'à 50. Donc, il y a une définition qu'il faut essayer de trouver, et alors, je vous demanderai volontiers comme première question, à votre avis, comment on peut définir la vulnérabilité envisagée dans le cadre de la vieillesse et de l'âgisme ?
Alors, la vulnérabilité est une... Peut se résumer, même si c'est un phénomène complexe, c'est la baisse des réserves fonctionnelles avec l'âge, certes, mais dépendante de plusieurs paramètres et plusieurs facteurs qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui vont faire que le seuil d'adaptabilité et le seuil de faire face à certains stress vont s'amenuiser et déclencher face à un événement interne lié à notre propre organisme, mais aussi externe, ça va provoquer une défaillance d'un organe ou de tout un système.
Donc on peut en tenir que vulnérabilité, ça veut dire à la fois des facteurs internes et des facteurs externes. Et est-ce que, alors, Patrick, tu as une autre approche ?
Oui, effectivement, la vulnérabilité, pour compléter les propos d'Imad, la vulnérabilité, c'est la façon dont on réagit par rapport à notre environnement, par rapport à l'extérieur. Effectivement, une personne jeune, en fonction de son vécu, les handicaps cumulés, aura une réaction différente, une adaptation différente par rapport à son environnement et sera considéré vulnérable. Une personne âgée qui a un vieillissement plutôt réussi peut ne pas être vulnérable. Donc, il y a plusieurs facteurs associés à la vulnérabilité. Il y a l'isolement social qui rend les gens vulnérables. Il y a les problèmes de santé, qu'ils soient somatiques, cognitifs ou psychologiques, hein, qui peuvent aussi contribuer à cette vulnérabilité. Donc, on est dans une situation donnée avec on a accumulé des facteurs, on est isolé socialement, on a des maladies et tout, et donc on va se retrouver tout de suite vulnérable par rapport à son environnement, et donc là besoin de protection, besoin, et on abordera tout le monde la fragilité pour voir s'il y a quand même une nuance. On a tendance à confondre de moins en moins, heureusement, et fragilité.
On verra ça après, effectivement. Ça après. Les définitions ne sont peut-être pas les mêmes. Oui. Alors, si on tient qu'en termes de fragilité, il y a des facteurs qui interviennent à titre personnel, et on comprend lesquels, aussi bien du point de vue de maladie que du point de vue des comportements, éventuellement, mais aussi des facteurs matériels qui sont liés à l'habitat, qui sont liés à une architecture, qui sont liés aussi aux commodités offertes par la ville, qui peut rendre à un moment donné les déplacements plus difficiles. Alors, parmi tous ces exemples qu'on peut avoir au niveau d'un habitat inapproprié, comment vous voyez le problème de l'accessibilité ? Est-ce que l'accessibilité pour l'habitat est un facteur important de vulnérabilité ou pas ?
Bien sûr, l'accessibilité à l'habitat est un facteur important. Les habitats doivent être adaptés aux capacités des gens, on doit pouvoir les habitats, non seulement l'adaptation, la construction, la façon dont c'est construit pour que ça soit complètement adapté aux situations particulières, et puis l'environnement aussi dans lequel l'habitat se trouve, pour qu'il y ait des échanges faciles, des interactions faciles. Il ne faut pas que ça soit des habitats isolés, éloignés, et qui ne faciliteraient pas les interactions avec d'autres personnes, et c'est un élément majeur, et il y en a d'autres qu'on abordera certainement dans le cadre de cette émission.
Et Imad, tu voudrais ajouter quelque chose ?
Oui, tout à fait, pour compléter les propos du professeur Mokoundia, le problème aujourd'hui, c'est que l'habitat conçu aujourd'hui n'est pas adaptable pour la dépendance qui peut arriver pour nos seniors. Et donc, il est très important de pouvoir construire dès le début un habitat qui peut s'adapter aux besoins de nos seniors et pas le contraire. Et c'est ce qui provoque des grosses difficultés aujourd'hui. Avec le désir de rester à domicile, c'est ce déchirement de quitter son habitat ou sa maison pour aller peut-être dans des structures un peu plus adaptées. Et pourquoi pas, dès la conception, l'habitat, c'est lui qui s'adapte aux besoins et pas le contraire.
Oui. Alors merci Imad d'évoquer cette question, parce que on voit très bien aujourd'hui que la pyramide des âges a évolué, alors que les architectes ont conçu leur lieu de vie il y a maintenant de nombreuses années, et que à l'époque il y avait beaucoup moins de personnes âgées. Donc on conçoit qu'il y a là une cohérence qui n'est plus parfaite. Et ceci est d'autant plus vrai que maintenant on a développé ce qu'on appelle une architecture salutogénique, c'est-à-dire une architecture qui tient compte vraiment des facteurs favorisant la santé. Et cette architecture salutogénique a été proposée à la fin du siècle dernier, donc c'est encore récent. Et c'est donc une perspective qui commence à se mettre en place. Est-ce que vous avez l'un et l'autre des exemples où il y a effectivement un habitat qui a été conçu d'une autre façon aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la pyramide des âges?
Alors, j'ai un exemple tout récent. On vient d'inaugurer à Champmaillot un nouveau bâtiment d'EHPAD qui est vraiment censé être adapté aux capacités des résidents, en tenant compte de la sociologie, des capacités des résidents actuellement. Hein. Donc, c'est un habitat complètement adapté qui répond aux normes imposées actuellement, aux normes en vigueur actuellement. Et donc, on a bien vu lors de l'inauguration, les premiers résidents qui y sont s'y retrouvent avec des espaces plus importants, avec des dispositions cabinet toilette, douche toilette plus adaptées, avec des rampes un peu partout, avec des salles de déambulation, avec un équipement en termes de climatisation ou de chauffage complètement adapté, un isolement adapté, des lieux où les résidents peuvent se retrouver. Mais c'est, donc ça, c'est un exemple, mais c'est un EHPAD.
Oui,
c'est
tout à fait intéressant. Est-ce que les nouvelles technologies sont apparues dans ce nouvel habitat?
Oui, il y a des nouvelles technologies apparues. Et après, le problème des nouvelles technologies, c'est les générations, là, je parle de la maison de retraite, c'est les générations qui ne sont pas très familiarisées aux nouvelles technologies. Et donc, c'est bon. Ces nouvelles technologies seront de plus en plus utilisées, prises en compte avec les futures personnes âgées, on va dire. Mais pour l'instant, ça reste quand même des personnes âgées qui ont 90 ans, 95 ans, donc qui ne sont pas familiarisées à ces nouvelles technologies.
Alors justement, on a souvent l'impression que les personnes âgées ne sont pas accessibles aux nouvelles technologies parce qu'elles n'ont pas vécu avec ça depuis longtemps. Et à l'usage, on s'aperçoit que c'est quand même pas tout à fait vrai et que souvent, les personnes âgées s'adaptent très bien à ces nouvelles technologies à condition qu'il y ait effectivement eu une éducation, une formation antérieure. Vous savez aussi votre sentiment ?
Effectivement, l'exemple de cette adaptation aux nouvelles technologies, c'est pendant la période Covid où... Beaucoup de nos seniors étaient obligés d'être confinés, comme nous tous d'ailleurs, à un moment donné, dans leur logement, dans leur maison et parfois dans les EHPAD et dans leur chambre. Et donc, on pensait qu'ils auraient beaucoup de mal à utiliser, par exemple, une tablette, à communiquer à distance. Et finalement, ça s'est bien passé en leur montrant, en les aidant au début, en les accompagnant pour avec ces nouvelles technologies, avec ces outils, on va dire, qu'ils n'avaient pas l'habitude de les utiliser, ils y sont mis finalement pas mal avec le temps. Mmh. Oui.
Donc ça veut dire que c'est rassurant de voir que le cerveau des personnes âgées est encore adaptable.
Exactement.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, cet premier aspect de facteur extérieur à la personne suscite quand même une certaine réserve en ce qui concerne le fait de surjouer parfois des facteurs liés à la personne. En effet, si on les surjoue, on va imaginer qu'ils sont fragiles, on y reviendra tout à l'heure, et que par conséquent, il faut les isoler. Est-ce que ce n'est pas une façon de voir les choses qui est néfaste finalement, puisque ça conduit à aggraver l'isolement, que de surjouer les facteurs personnels?
Oui, tout à fait, parce que l'isolement est un facteur majeur de vulnérabilité. Et donc, on a tendance à surprotéger les personnes âgées, hein, et donc finalement se retrouvent isolées. On le voit bien quand les personnes âgées se retrouvent dans un environnement où finalement très éloignées de leurs enfants, ne peuvent plus, les amis qui vieillissent aussi ne peuvent plus leur rendre visite. Et finalement, même une personne âgée qui avait un vieillissement plutôt normal, voire réussi, progressivement va décliner, voire même très progressivement et très rapidement décliner. Parce qu'il y a cet isolement qui a un impact majeur. Et donc, il faut lutter contre l'isolement, c'est un premier aspect. Tout proposer, bien sûr, en respectant la fatigue qui s'installe progressivement, mais favoriser ces échanges, briser l'isolement, favoriser les échanges, les interactions avec l'environnement et faciliter tout ça, quoi.
Alors, souvent, l'isolement est en partie aggravé par le fait de la retraite. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est en retraite, alors qu'elle a encore des compétences au plan intellectuel, au plan manuel, dans de nombreux domaines, il semble que ses capacités ne soient pas utilisées et qu'on les laisse finalement un petit peu en dehors d'une participation sociale, alors que celle-ci pourrait encore être utilisée, par exemple, pour aider les enfants à faire leurs devoirs, par exemple, pour donner des informations intéressante sur l'activité professionnelle qui était la leur. Par exemple, ceux qui travaillaient dans l'informatique pourraient, aux personnes du même âge, leur montrer que finalement, c'est relativement facile. On retrouve alors la problématique de l'éducation qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les capacités, les compétences et domaines des personnes âgées en retraite sont sous-utilisées ou au contraire, qu'on s'en occupe vraiment ?
Pas toujours, malheureusement, et je trouve que notre société n'est pas toujours inclusive dans le sens où beaucoup de personnes d'un certain âge, après la retraite, au niveau social, ils n'existent plus en tant qu'actifs, y compris dans des domaines où ils sont capables encore de donner de leur expérience, de leur temps. Je parle pas bien évidemment du milieu associatif où là effectivement heureusement qu'on peut s'épanouir, mais je pense dans la vie active ou pour soutenir les plus jeunes, c'est dommage de s'en priver de l'expérience de nos seniors, et effectivement ça peut être un gâchis aussi hein, après quelques années de s'en priver.
Le terme n'est pas trop fort, Imad, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est un gâchis. Et peut-être est-il aggravé ce gâchis par le fait qu'on parle souvent de maintien à domicile. Et le terme de maintien est parfois interprété de façon péjorative. Le maintien étant considéré comme étant une espèce de contrainte où on va obliger les gens à rester chez eux. En fait, ce n'est pas du tout ça. L'étymologie, le maintien, c'est manus tenere, donc on tient la main, on guide. Ça veut dire qu'on va aider les personnes à rester chez elles lorsqu'elles l'ont choisi. Et on constate en effet qu'une très grande majorité de Français aujourd'hui choisissent de rester chez eux. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte cette perspective pour améliorer la possibilité de conserver leur choix. C'est-à-dire d'être capable de pouvoir conserver le choix, donc une adaptation de l'habitat, comme on l'a vu tout à l'heure, et des possibilités de les intégrer davantage dans la vie sociale. Alors, pour essayer d'aller dans ce sens-là, comment on peut faire pour faciliter l'implantation de la personne âgée dans la société ? Comment on peut faire ça ? Et éviter qu'elle ne se soit, entre guillemets, maintenue à domicile au terme de contraintes. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Question difficile.
Oui, question difficile, mais très intéressante, avec... très ouverte d'ailleurs. Alors, on parlait de l'éducation, de l'inclusion, tout ça permet de maintenir les personnes âgées dans la société. Je développe un peu. Les personnes âgées ont une expérience de la vie, une expérience professionnelle, une expérience dans divers domaines, et cette expérience peut être utilisée, mise à profit. Quand elle est mise à profit, ça permettra à la personne âgée de continuer à interagir avec d'autres générations, des plus jeunes, former des plus jeunes, partager son expérience avec les plus jeunes. Toutes ces interactions permettront à la personne âgée d'être maintenue dans la société. Les personnes âgées peuvent avoir divers rôles aussi, d'autres rôles aussi dans la société. On peut, l'intervention auprès des plus jeunes, les personnes âgées peuvent aussi faire partie des associations, on le voit, hein, peuvent faire des associations pour apporter leur soutien dans certains domaines. Et ça permet de faire travailler toutes ces actions, faire travailler la cognition, faire travailler le cerveau et continuer à maintenir la personne âgée dans une situation plutôt de vieillissement normal, quoi, et non accélérer le vieillissement avec les effets néfastes du vieillissement pathologique qu'on peut connaître.
Et en pratique, alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, celles qui ont envie, effectivement, de continuer à participer ? Où faut-elles aller ? À qui doivent-elles s'adresser ? Est-ce qu'il existe des structures qui leur permettent de faire ça ? Et qu'est-ce qu'on peut leur conseiller en pratique ?
Oui, effectivement, il y a des structures et même de plus en plus, peut-être pour des raisons sociales ou économiques, qu'on qu'on va solliciter les seniors pour rester dans la vie active. Ouais. Alors, tout d'abord, économique. Et là, malheureusement, parfois, c'est les seniors qui, pour des besoins, pour compléter leur revenu, ils travaillent et donc ils participent au travail collectif.
On parle bien de la silver économie.
Exactement. Et puis aussi social avec des parents isolés parfois ou des familles séparées, on fait appel à des seniors des membres de la famille pour garder les enfants, pour s'en occuper.
Est-ce qu'on peut par exemple alors leur conseiller de s'adresser à leur mairie où il y a des centres d'action sociale
tout à fait.
Et les mairies, il y a des associations qui existent déjà et qui recherchent. En tout cas, c'est des personnes âgées qui seraient volontaires pour participer aux activités associatives. Et les mairies, effectivement, il y a des maisons de seniors.
Tu aurais une adresse ou un exemple d'association?
Alors là, je sais que la mairie, par exemple, il y a la maison
des seniors,
qui dépend de la mairie, à Dijon en tout cas. Il y a diverses associations. Je sais qu'il y a des associations, je n'ai plus le nom exact en tête, mais une association domiciliée au CHU à Champmaillot qui regroupe aussi des personnes âgées. Il y a des personnes âgées avec des capacités un peu cognitives, un peu qui commencent à altérer, il y a des groupes aussi, il y a des centres d'accueil où elles sont mises où elles rencontrent d'autres personnes âgées, où elles font, il y a un certain nombre de partages avec quelques jeunes qui les guident, plus jeunes qui guident. Il y a diverses structures. Après, c'est l'accès. Il faut qu'il y ait l'information, que l'information circule. Elle ne circule pas toujours bien. Et donc, les gens ne sont pas toujours au courant de toutes ces structures.
Donc, écoutez, ceux et celles qui nous écoutent, si vous souhaitez pouvoir avoir des informations sur ce sujet, allez voir déjà dans votre mairie et vous aurez beaucoup d'informations, de sorte à ne pas rester isolé et de ce fait être encore plus vulnérable. Je pense qu'on a un peu terminé sur la vulnérabilité. Donc, si vous voulez, on peut peut-être passer à l'autre qualificatif qui est la fragilité. Et Patrick, tu nous as dit que ce n'était pas la même chose.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux expliciter ?
Alors, la fragilité, longtemps on a tâtonné sur la définition de la fragilité. Actuellement, le concept semble plutôt bien défini. C'est un syndrome clinique gériatrique. La fragilité est liée à une diminution progressive des capacités physiologiques d'un individu. Et en dessous d'un certain seuil, la personne ne pourra plus faire face au stress environnemental, au stress en termes de maladie. Et là, va passer en dessous de la limite, de la zone d'insuffisance, et pourra difficilement remonter la pente. La fragilité, donc, si on résume le vieillissement, il y a le vieillissement normal ou réussi. C'est des personnes qui n'ont pas de maladie ou ont une maladie stabilisée avec un traitement et qui progressivement vont diminuer en capacité, mais sans atteindre le niveau d'insuffisance. Il y aura toujours une marge, une certaine réserve. Là, c'est des personnes qui vieillissent, qui ont un vieillissement normal ou réussi. Il y a des personnes âgées fragiles. Ces personnes âgées fragiles, donc comme on l'a expliqué, qui sont confrontées à la fragilité, mais qui peuvent, avec une prise en charge assez adaptée, peuvent remonter la pente. Et à l'extrême, il y a des personnes âgées malades qui, elles, sont confinées, sont alitées, n'ont plus du tout de marge pour remonter la pente. Et voilà, donc la fragilité, on doit vraiment... L'idée, c'est de diagnostiquer, de dépister la fragilité très, très précocement pour accompagner les gens, pour aider les gens à essayer de remonter la pente. La fragilité est donc surtout liée à des facteurs internes, à des maladies, que ce soit sur le plan cognitif, psychologique ou somatique.
Donc il faut bien retenir la différence. La fragilité est attachée à la personne.
C'est
un syndrome clinique qu'on va donc pouvoir définir à partir de la nature d'une lésion éventuelle, à partir de la modification d'une fonction éventuelle, et qui va devoir alors être prise en charge. Donc c'est la grande différence entre la vulnérabilité
et la fragilité.
Si on voit ça comme ça, dans la fragilité, il y a donc de très nombreux facteurs qui peuvent intervenir. Si on fait un classement très sommaire, on dit qu'il y a des facteurs cognitifs, qui sont sûrement les plus redoutables, je pense, quant à la fragilité. Mmh. Et puis les autres facteurs qui sont liés à des maladies chroniques, par exemple. Mmh. Comment les personnes elles-mêmes ou leur entourage sont capables de faire la différence entre ces deux types d'origine, soit c'est les fonctions cognitives, soit c'est les fonctions physiologiques, lesquelles peuvent éventuellement être associées pour aggraver encore la fragilité. Comment on peut conseiller aux aidants ou au personnel même de faire la différence et de savoir quelle est celle qui va devenir prépondérante?
Alors ça peut être un seul facteur ou plusieurs facteurs, hein, c'est ça la difficulté. Si c'est la cognition, bah forcément c'est celle la plus redoutée et qui a tendance à s'aggraver, comme un début de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, avec des troubles de la mémoire sur des faits récents au début, puis après sur des faits plus anciens, des problèmes de l'attention, etc. Mais ce qui est difficile, c'est que ces troubles cognitifs peuvent être ou deviennent après associés à d'autres facteurs comme l'activité physique, hein, puisque ce sont des personnes qui vont s'isoler, qui n'ont plus avoir envie d'aller vers l'extérieur, du coup, l'activité physique qui va être impactée et l'alimentation aussi, hein, donc il peut y avoir une dénutrition, les médicaments qui peuvent se surajouter, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent être associés à quelque chose au départ peut-être unique, mais qui s'associe avec d'autres facteurs pour renforcer cette fragilité.
Donc, ce qui veut dire que la fragilité n'est pas forcément une liaison, elle ne fait pas forcément liaison avec le vieillissement, mais qu'on peut éventuellement s'en protéger avec une hygiène de vie, on pourrait dire ça, qui est convenable du point de vue cognitif, continuer à avoir une activité qui fait travailler notre cerveau, avoir une activité physique. Et ça, c'est un élément qui peut préserver à une évolution trop rapide de la fragilité, qui de toute façon va survenir avec l'âge, puisqu'on sait bien que le vieillissement entraîne, bien sûr, un vieillissement de l'ensemble des fonctions et des organes. Donc ça, c'est inévitable. C'est physiologique, on va dire. Mais pour l'éviter, est-ce qu'on peut conseiller ça et continuer à avoir une activité intellectuelle, lisez, faites des sudoku ou faites je ne sais quoi, qui vous fait travailler le cerveau. Et également, une activité physique. Mais auquel cas, pour l'activité physique, il va falloir que ce soit une activité physique adaptée. Alors, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut conseiller?
Je vais peut-être laisser reprendre le docteur Sfer sur la partie cognitive, parce que c'est des aspects qu'il connaît très bien en étant président de Resela. Et puis, je m'intervenais sur les aspects physiques.
Alors, Imad, on t'a donné la parole.
Sur les aspects, merci Patrick. Sur les aspects cognitifs, bien évidemment... l'idée, c'est d'entretenir sa mémoire et ses autres capacités, comme la concentration, comme l'attention, un peu le calcul mental. Enfin, il y a des choses simples. Hein, on n'est pas obligé de faire des choses très compliquées, mais souvent, c'est comme d'ailleurs l'activité physique. Il faut que ça soit quelque chose dans nos cordes, mais qui est réalisé très 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 fréquemment, enfin régulièrement plutôt, hein, quotidiennement, sudoku ou d'autres activités intellectuelles, la lecture par exemple, les jeux les jeux de société aussi, hein, qui aussi associent l'attention et la concentration. Le cerveau, c'est comme tous les organes, ça peut être comparé comme un muscle, hein, il faut l'entretenir et le muscler, donc en tout cas par des activités pas intensives mais très très régulières.
Donc là on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'intérêt qu'a la personne âgée de participer à une activité sociale. Parce que là aussi, ça va lui permettre d'augmenter ses capacités cognitives, d'augmenter même son information. Ça va l'obliger à aller chercher des informations pour pouvoir rendre encore davantage de services. Mmh. Alors, on en arrive à ça. C'est
sur le plan physique, non, peut-être
aborder. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu pourrais nous dire, sur le plan physique, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, sur le plan physique, bah, évidemment, je rejoins ce que a dit Imatsfer. Il faut une activité régulière, mais pas obligatoirement intense, adaptée aux capacités de la personne. Une activité physique régulière, c'est-à-dire de la marche, par exemple, 30 minutes de marche tous les jours, voilà, c'est suffisant. Ça a été prouvé, démontré par les travaux de recherche scientifique que ça permet de maintenir... les capacités physiques, les aptitudes physiques. Il y a d'autres activités qu'on peut faire. Il y a des gens qui préfèrent aller nager, qui préfèrent faire du vélo, et toutes ces activités permettent de maintenir des capacités physiques. Il faut les faire régulièrement, et non, pas trop intense, c'est pas vraiment du sport, c'est pas de la compétition, mais c'est de l'activité physique.
Voilà. Là, c'est leur médecin traitant qui peut les guider dans cette activité, parce qu'elle est peut-être éventuellement dangereuse si elle est surfaite.
Le médecin traitant peut les guider en fonction de leur état de santé, de leurs antécédents. Et surtout, maintenant, le médecin traitant peut faire une prescription qui est donc avec un remboursement à la clé par l'assurance maladie.
L'activité physique étant comme un médicament.
C'est ça.
Est-ce que tu as l'impression que dans les études médicales, les jeunes sont sensibilisés à ce type d'approche ?
Oui, de plus en plus, les jeunes sont sensibilisés à cette approche, en même temps que sur les aspects cognitifs, sur l'aspect nutrition dont on parlait. Les trois sont quand même souvent liés. On voit que les personnes qui ont une activité physique régulière vont s'intéresser aussi aux activités cognitives, et vont faire attention aussi à la qualité de la nutrition, qualité et quantité de la nutrition.
Alors, on voit bien que dans ces conditions, il est très important d'évaluer la fragilité et la vulnérabilité pour prendre les mesures qui sont en conséquence. Quels sont alors, la question qui se pose, quels sont les moyens d'évaluer la fragilité et d'évaluer la vulnérabilité ? Comment on peut faire ?
Alors, tout dépend de celui qui va évaluer, on va dire. On peut être gériatre, bien évidemment, expérimenté, et là, on peut faire ce qu'on appelle l'évaluation gériatrique standardisée, qui est assez complète et qui demande un peu d'investissement. Mais on n'est pas obligé d'aller toujours jusqu'à ce niveau-là de complexité dans l'évaluation.
Évaluation qui alors donne naissance à des grilles, en quelque sorte.
À des grilles, oui. Mmh. Il y a des grilles beaucoup plus simples d'utilisation, que ça soit pour le patient lui-même, hein, parfois c'est de l'auto-évaluation, ou pour des professionnels intervenants à domicile.
Il existe des grilles qui sont utilisables en auto-utilisation ?
Moi, j'en connais une, c'est iCop Monitor.
Ça s'écrit comment ?
iCop, I-C-O-P-E. C'est un acronyme anglais. Hein. Mm-hmm. Ça doit être Integrated Care of Older People.
Elle existe sur Internet, on peut y avoir accès facilement ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a impulsé un programme international qui s'appelle ICOP Programme. En France, depuis l'année dernière, et les ARS et les pôles de gérontologie et d'innovation ont développé accompagner ce dispositif pour qu'il soit le plus diffusé possible, avec effectivement une application qu'on peut télécharger et qui permet aux patients à domicile, mais aussi aux intervenants à domicile, c'est pas des médecins, hein, mais
c'est
des professionnels de santé qui sont capables de rechercher les critères un peu de vulnérabilité ou de fragilité qui commencent au niveau, en posant quelques questions sur la cognition, sur la motricité, sur la nutrition.
Alors, j'ai l'impression que ces informations ne sont pas immédiatement accessibles. ICOP, par exemple, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes sachent ce que c'est et avec la possibilité d'y avoir accès. Est-ce que dans ces conditions, il ne serait pas bon de prévoir des consultations médicales par des gériatres qui ne sont pas des consultations visant à définir une maladie ou à traiter une maladie, mais des consultations d'information qui permettraient aux personnes d'avoir tout accès à des mesures à la fois de prévention et de prédiction d'incidents, par exemple de chutes. Est-ce qu'on peut prévoir des consultations de ce type? Est-ce qu'elles existent déjà?
Ces consultations n'existent malheureusement pas en France. En tout cas, il y a des pays, notamment je pense au Canada, à l'expérience du Canada, parce que pour y être régulièrement allé, il y a de tels dispositifs où c'est des consultations dites de prévention, où on informe, on donne des informations aux personnes, sur les outils d'auto-évaluation, comment, voilà, des informations sur l'hygiène de vie. Mais malheureusement, en France, bon, le système de l'assurance maladie, non, assurance maladie à maladie, donc il faut vraiment un problème lié à la santé, de maladie, pour pouvoir accéder à une consultation. Mais je pense qu'à l'avenir, faut mettre en place ces dispositifs. Je suis d'accord avec toi de prévention,
et venir on peut d'information. Faire, alors, pour inciter les pouvoirs publics à développer ça. Parce que je comprends très bien que dès l'instant où on parle de consultation médicale, ça veut dire que c'est un coût.
C'est ça.
Donc il va y avoir un remboursement.
Oui.
Et dans ces conditions, si c'est un coût qui n'aboutit pas à une prescription de médicaments, mais qui est simplement une information, finalement, on ne va pas souscrire. Hein.
Oui.
Et non, ça ne vaut pas le coup.
Oui.
En réalité, c'est une économie qu'on fait.
Bien
parce
sûr,
que si les personnes sont bien informées, elles vont être prévenues,
bien sûr.
Et elles vont avoir être éduquées,
oui.
Elles vont pouvoir rentrer en ligne de compte dans la société actuelle,
oui.
Alors qu'autrement, elles seront isolées. Alors, c'est donc un facteur qu'il faut développer de façon importante, selon
vous. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un mauvais calcul, c'est une mauvaise vision de la situation. Parce que, outre le fait d'inclure les gens dans la société, si on les prend, mais aussi, on prévient l'apparition des maladies, on évitera... une bonne partie de maladie et donc derrière des coûts pour la société. Et donc, c'est très important de développer ces consultations.
Donc, des bénéfices quelque part,
bien sûr.
Si on limite les coûts dus à la fragilité et à la vulnérabilité, forcément, on fait des économies.
Bien sûr.
Mais je pense que c'est très culturel. Hein. On vit dans une société en France ou même en Europe... pas l'Europe du Nord, hein, par contre, qui ont intégré depuis un certain temps l'intérêt de la prévention et surtout le rôle du corps médical qui n'est pas toujours interventionniste, ce qui est souvent le cas chez nous. Quand on va chez le médecin, c'est toujours pour réclamer un traitement ou pour quand on est vraiment malade et on ne va pas chez le médecin pour faire un check-up de santé habituelle ou dans le but d'anticiper donc une certaine fragilité ou une vulnérabilité. Et je pense que les pouvoirs publics ont un rôle d'information et de sensibilisation de la population, y compris pour les professionnels de santé, de l'intérêt de la prévention dans nos pratiques.
Les perspectives électorales à venir, c'est des facteurs qui seraient à prendre en compte par les futurs candidats. Donc notre émission, elle aurait servi à quelque chose. Alors, bien sûr, cette perspective de fragilité, de vulnérabilité, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que ça représente en termes de nombre de personnes qui sont dans ces situations? Est-ce qu'on a une idée de ce que représente le coût précisément de ces situations? Autrement dit, c'est le résultat des évaluations qui ont été faites. Est-ce qu'on peut tirer des grands axes qui sont en train de se développer ou c'est au contraire encore un peu trop difficile?
Alors, pour avoir des chiffres précis en termes de fragilité, c'est difficile d'avoir une évaluation précise. On sait que quand on se réfère au vieillissement, on estime, pour vous donner un ordre d'idée, qu'il y a environ 20% de personnes qui ont un vieillissement fragile, 20 à 25%.
Oui, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Donc, dans le vieillissement réussi, on compte à peu près, vieillissement réussi, 10% de la population. Oui. Vieillissement normal, 50% de la population. Vieillissement fragile, oui, 25 à 30% de la population. Oui, ce qui
Alors,
n'est
Patrick,
pas négligeable.
Vieillissement réussi, ça, l'adjectif est important. Qu'est-ce que ça veut dire?
Le vieillissement réussi, c'est ce que... on parle de vieillissement réussi quand des personnes restent très vives, vieillissent avec un vieillissement réussi, à la fois sur le plan cognitif et physique et psychologique. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont très peu de pathologies, qui vont en avoir une, voire deux, mais stabilisées avec un régime, pour, quand on pense au diabète, ou avec un traitement à la plus faible dose possible et qu'ils prennent depuis longtemps et qui est stabilisé, qui vont continuer à avoir des activités intellectuelles, des activités associatives, qui vont continuer à faire du sport à un niveau relativement satisfaisant. Et ça, c'est un vieillissement réussi.
Donc, c'est-à-dire qu'on en revient à la définition 1946 de la santé, qui dit que c'est un état de bien-être
c'est
total,
ça.
Social, et mental,
oui.
Et physique. C'est bien ça.
C'est bien ça.
Et je pense pour effectivement un vieillissement réussi, c'est un vieillissement qui permet d'être autonome pour accomplir les gestes habituels de la vie quotidienne. Et je pense, ça paraît simple comme ça, mais c'est vachement important qu'on puisse être autonome.
Et indépendant.
Indépendant, exactement.
Très bien, on en arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir aidés à parler de ces questions particulièrement importantes. Alors, souhaitons que cette émission vous ait permis, chères auditrices, chers auditeurs, à mieux appréhender des concepts de vulnérabilité, de fragilité que vous voyez régulièrement utilisés et qui sont malheureusement trop souvent associés à une dimension péjorative. Alors, on peut dire que, bien sûr, les nouvelles technologies peuvent aider beaucoup, mais qu'il faut de temps en temps s'éloigner un peu de la high-tech pour rester sur la haute-tech, c'est-à-dire des choses simples qui permettent aux personnes d'avoir des informations liées à leur hygiène de vie, liées à leur activité de tous les jours, qui les mettent dans une meilleure situation. Alors, bien sûr, Patrick Mancundia, merci beaucoup. Imatsfer, merci beaucoup de nous avoir ainsi aidés à mieux approfondir cette question et à rendre à vous, qui êtes dans cette situation de vieillissement, la situation un peu meilleure. Merci beaucoup.
Merci.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.